ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter, te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour irriter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot, si tu sais rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu veux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Si tu peux rencontrer, si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans être qu'un penseur, si tu sais être, si tu peux être dur sans jamais être sage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu peux être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir tes deux menteurs d'un même front, si tu sais conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire sera d'un homme. Si vous êtes parrain ou marraine, vous pouvez offrir ça, hein, un petit cadre. Non, voilà, le beau cadeau que mon parrain m'a fait, ça. C'est sûr. Et l'orgueilleux n'aime pas les humiliations, ça c'est évident. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère faire des retraites sur la gloire de Dieu, sur l'humilité, je sais pas. Mais remarquez bien que faire une retraite sur l'humilité, c'est un petit peu parler du mystère de l'incarnation de Jésus. Et faire une retraite sur la très sainte Trinité, c'est parler de ce qui est avant le mystère de l'incarnation. C'est un petit peu... Tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Mais tout se réalise dans le mystère de l'incarnation. Là, on pose la question, mais d'où ça vient, d'où vient cette espèce d'orgueil, quoi? D'où ça vient l'orgueil? Comment ça se fait qu'il y ait cet orgueil en nous, quoi? Fondamentalement, pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps cet orgueil qui est là et qui fait que bon, ben, l'humilité, bon, on n'aime pas ça et nous n'aimons pas non plus entendre des choses qui sont toutes simples, qui sont des principes très très généraux, universels, irrenversables, qui relèvent du bon sens. Mais on n'aime pas parce qu'ils mettent la lumière sur... On s'aperçoit qu'on est humilié rien qu'en les entendant, rien qu'en étant confronté à eux, et cette humiliation on n'aime pas. Donc ça dévoile notre orgueil. Et on n'aime pas que notre orgueil soit mis à nu. C'est un possédé, par exemple, du démon. Il n'aime pas tellement, le démon, d'être découvert. Habituellement, il se cache bien. Tous les exorcistes savent ça. C'est que... Il y a des gens qui sont possédés par le diable et ils ne s'en rendent compte que 30 ans après. Ils étaient possédés complètement par le diable. Donc André Ramona qui revient de Medjugorje qui m'ont confessé ça, c'est pas que ils étaient en train de filmer un truc puis une personne là, qui était avec son chapelet, qui était avec son tout ça, qui était pieuse quoi, bon, finalement certainement, faisait tous les pèlerinages, tout ça, et chrétienne, compagnie, bon, ben, elle avait le démon depuis des années. Donc, quand elle est tombée par terre, André était là, à côté, devant, avec son caméscope. Donc, le prêtre disait, nous allons maintenant prier. Il a levé la main comme ça, la main gauche. Nous allons maintenant prier. Et elle était juste derrière lui, il était avec son caméscope, il filmait le père Franck. Extraordinaire cette histoire. Ça, il faudrait qu'il nous le raconte.
respectueux, que du coup il se cache. C'est ça qui est extraordinaire. Alors il nous fait passer devant. Et c'est un don extraordinaire. Mais alors, du coup, il se cache derrière le visage de mon père, de ma mère, de tous les voiles, les icônes de ce monde, qui sont évidemment des instruments moins adaptés. Alors, du coup, on en veut au bon Dieu de nous avoir donné cette liberté. On lui en veut un peu, on lui en veut un peu. Puisqu'il ne nous a pas tout donné tout de suite, immédiatement, de manière à ce qu'on puisse en jouir tout de suite, immédiatement, sans aucun mérite de notre part, à ce moment-là, on ne veut plus rien recevoir. Et l'orgueil s'enracine premièrement dans l'origine, dans le principe, hein, on dit dans la Genèse, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, mais tout de suite, il va y avoir les ténèbres. Eh bien, c'est dans le principe, en effet. Le principe, il y a ce refus de recevoir. Je veux être du coup don. Je refuse de recevoir le don suprême de la sainteté, de la liberté, de l'humilité. Et du coup, je veux être don par moi-même. Parce que je refuse de recevoir le don, je veux être don. C'est moi qui serai par moi-même origine de ma propre vie. C'est là que ça vient, fondamentalement. Quand je veux être moi-même ma propre origine, c'est moi qui veux être source de mes actes. C'est moi qui veux être source de tout ce qui est bien. Alors ça va prendre des caricatures invraisemblables après. Que tout le monde voit autour de nous, il n'y a que nous qui ne le voyons pas. Ce qui nous paraît bien, c'est uniquement ce qui nous est paraît. Voilà, je suis inspiré, donc c'est ça qui est bien. C'est uniquement ce que moi je vois qui est bien, et puis ça vient de Dieu forcément, puisque je le vois que c'est moi, donc ça vient de Dieu. Et je ne peux pas concevoir que le bien vient de l'Église, que le bien vient de l'autre, que le bien vient de celui qui est proche de moi, et uniquement de celui qui est proche de moi. Et que aucun bien ne sort de moi. Tout sort de Dieu. Tout sort de Dieu à travers la providence de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est à travers ceux qui sont proches de moi. C'est pas à travers mon inspiration. Mais aujourd'hui, cette espèce d'immense orgueil mystique, spirituel, chrétien, luciférien, fait que il faut que ce soit moi qui soit source d'inspiration et c'est moi qui suis source du bien. C'est le refus de recevoir. Qui est l'origine de l'orgueil. C'est l'erreur fondamentale. Je suis par moi-même source de ma propre sainteté, de la sainteté du prochain et de la lumière qui va l'aider. Parce que dans l'humilité, aller dans un monastère, de temps en temps, vous voyez, c'était des traditions, allons dans des monastères de bénédictins, de temps en temps. Et on va voir ces moines, comment pendant 50 ans, 80 ans de suite, ils sont là. Et on voit qu'ils sont dans la vérité, parce qu'ils sont dans une attitude d'humilité. Ils savent, ils ne vont pas vers vous en disant, allez, je vais lui, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Jamais. Mais s'il fait ça, c'est fini pour lui. Autant qu'il défroque, je veux dire, c'est pareil. Un moine qui fait ça, vous rendez compte, c'est horrible. Un bénédictin, je veux dire. C'est l'humilité, vous voyez. C'est l'erreur fondamentale. Ouais, je veux, par exemple, aimer par mes propres forces. Bon, alors, évidemment, je veux donner tout par mes propres forces et selon mon inspiration. Évidemment, au bout d'un certain temps, j'y arrive pas. Donc, premièrement, je refuse de recevoir le don. Moi, je veux être don par moi. Je veux aimer par mes propres forces. Alors, troisièmement, j'y arrive pas. Ça t'attend. J'y arrive pas. Forcément, puisque mon Dieu, c'est pas moi. J'arrive pas à le convaincre, tu t'en rends compte? J'arrive pas à le convaincre qu'il faut faire le bien. C'est extraordinaire, ça. Non, mais faut être cinglé pour voir que c'est pas de l'orgueil, ça. Mais c'est ça qui est bon. c'est de voir que on est. On se met dans la lumière, vous voyez, de Saint Benoît, la bénédiction que tu as fait à l'Église en donnant ce saint-là, pour voir que je ne suis pas Saint Benoît. Que je ne suis pas un saint, quoi. Que je n'ai pas de bénédiction. Et que je ne suis pas source de bénédiction. C'est au moins l'avantage. Si au moins on pouvait sortir avec cette évidence, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ce serait énorme, vous savez. C'est le béaba, si vous voulez. On ne bâtit pas la grâce de Dieu sur l'orgueil. On la bâtit sur le roc de l'humilité. C'est la base fondamentale. Puisque l'humilité, c'est de se retrouver dans la main du Créateur. Et que c'est lui qui est source de tout ce qui m'advient. Alors, comme j'y arrive pas, ben, je désespère. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Comment ça va se terminer? Et de pire en pire, je vois que ça ne commence qu'à être dramatique. Bon. Je désespère. Et désespérant, du coup, je veux encore moins recevoir de qui que ce soit. Et par conséquent, je refuse de me laisser aimer par qui que ce soit. Je ne veux pas me laisser aimer. Et je ne veux pas me laisser aimer parce que ce désespoir, il est tellement évident pour moi, cet échec est tellement évident pour moi que, du coup, je ne veux plus voir, non seulement je ne veux plus me laisser aimer, mais en plus, au bout d'un certain temps, je ne veux plus voir que c'est moi qui ne veux pas me laisser aimer et que telle est mon attitude fondamentale. De ne pas être celui qui est sous quelconque influence par rapport à autrui. Que la détermination vienne d'autrui, ça, je n'en veux pas. Mais je ne veux pas voir que cette attitude fondamentale, elle vient précisément de mon désespoir. Je me le voile à moi-même. Et je me le cache en disant que ce sont les autres qui n'aiment pas. Et du coup, je dis, c'est les autres qui n'aiment pas. C'est les autres qui... C'est l'autre. Ouais, ouais. C'est ma femme qui est une... C'est mon mari qui est vraiment l'horreur. Je planque ça, c'est extraordinaire ce phénomène de l'orgueil. Ça. C'est extraordinaire. Et donc, eh bien, je vais du coup, à partir de là, puisque l'autre n'aime pas, eh bien, je vais quand même continuer à tenir. Et je vais continuer à donner. Et moi, je donne ce que l'autre ne me donne pas. Moi, je donne et l'autre ne me donne pas. Eh bien, je vais donner quand même ce que je ne reçois pas. Voilà ce que c'est la définition même de l'orgueil. Quand on en est arrivé là, c'est que c'est sûr que l'orgueil a tout pris. L'orgueil, quelquefois, il ne prend pas tout. Alors, c'est la première passion mère, ça. C'est l'orgueil. Quand l'épître de Saint Jean dit que il y a les concupiscences de l'esprit, c'est ça, c'est la passion mère. Et puis, la deuxième passion mère, c'est la concupiscence de la chair. C'est au contraire tout prendre pour soi. Ça, c'est une concupiscence du cœur, concupiscence de l'esprit. C'est la passion mère. C'est quelle du péché originel. Alors, si quelqu'un n'est pas comme ça, qui vient de me trouver, il m'intéresse. Ça doit être une exception. Il y a eu l'Immaculée Conception, et puis il y a lui, quoi. et l'orgueil comme péché, ça Ça, c'est l'orgueil comme passion mère. L'orgueil comme péché, c'est-à-dire celui qui vous coule, cette fois-ci définitivement, ce n'est pas à d'éprouver ces choses-là. C'est de s'y installer, c'est de ne pas le quitter. Vous voyez bien que l'orgueil, comme péché, est un péché par omission. C'est de ne pas rentrer dans l'humilité. Donc d'avoir ça, ce n'est pas un péché, c'est une passion mère, une conséquence du péché originel. Le péché, c'est donc d'y rester. Voilà le processus de l'orgueil. Bon, ça va pour la réponse. C'est bien de poser des questions, c'est très très bien. Alors, nous allons continuer donc les degrés d'humilité, n'est-ce pas ? Et vous savez, c'est ce que me disait Catherine tout à l'heure, disait, il y a ces vieux livres qu'on trouve, vous savez, ces vieux livres-là du 19e siècle qu'on trouve dans les anciennes bibliothèques. Vous lisez ça, c'est rempli de tout ça. Ça faisait partie de la sagesse chrétienne, traditionnelle. Et alors, on voyait par exemple l'imitation de Jésus-Christ. Mais si vous trouvez une imitation de Jésus-Christ, mais je vous en supplie, mettez-le là, quand vous allez au bureau, au travail, mais mettez-le là. Vous ouvrez comme ça un petit passage. Moi, quand je travaillais au patronat français, c'est avec des responsabilités merveilleuses, j'avais toujours ici le petit livre noir, il y avait l'imitation de Jésus-Christ, c'était génial. Ça aide beaucoup, quoi, c'est sûr. Comment rentrer ? Et c'est que des conseils très simples, c'est des conseils évidents en plus, c'est des conseils. Alors aujourd'hui on dirait ringard. Bourge, tu sais, pas bourge, justement du tout. Mais ringard, vous voyez ça. L'imitation de la Vierge, vous savez, ces petits bouquins, le petit paroissial de la méditation de l'office de la Vierge, etc., les petits conseils, l'imitation de la Sainte Vierge, l'imitation de Jésus, tous ces petits livres qui pullulent dans toutes vos, dans les bibliothèques et les greniers de vos grands-mères. Ça pullule, plus il n'y a que ça. C'est bourré de ces petits conseils qui nous sont donnés concrètement pour rentrer dans l'humilité et pour pas rester dans l'orgueil. Dans cette passion mère extraordinaire, ce refus de recevoir le pardon de Dieu, ce refus de recevoir le don parfait de Dieu, ce refus de se recevoir soi-même comme venant entièrement de Dieu, donc ce refus de se taire, ce refus d'arrêter d'essayer de capter le regard d'autrui, ce refus, vous voyez, de tout le temps se préoccuper de séduire. Finalement, c'est d'être séduit par soi-même. C'est terrible, ça. Je suis séduit par moi-même. Je vais être source de dons pour moi-même, c'est ça. Je vais être source de dons, du coup, pour les autres. C'est encore pire. C'est étouffant, ça. Pas pour moi, mais pour les autres. C'est étouffant pour mon humilité, oui, ça, oui. Alors, on met un gros et de temps sur l'humilité, vous voyez. Il y a une certaine manière d'être charismatique qui ne va pas du tout. Parce que le grand charisme, c'est l'humilité. Et je me rappelle un jour un moine qui était là, et qui, enfin c'était un jeune, le Seigneur lui disait, tu dois rentrer dans cette communauté. Alors il rentre dans la communauté, parce qu'il est obéissant. Et il se dit, oh là là, lui, il était bien, hein, il était intelligent, il était brillant, il avait du succès, tout ça. Et puis, il aime quand même Jésus. Donc, il rentre dans la communauté. Il dit, est-ce qu'il faut que je sois moine et tout, hein? Est-ce qu'il faut que je me marie? Et il rentre quand même dans la communauté. Mais enfin, il se dit, oh là là, regarde comment ils sont. qu'est-ce qu'ils ont l'air cucu, c'est épouvantable. C'est... Et celui-là avec tous ses boutons, là, celui-là qui regarde par terre, et celui-là qui machin, et celui-là qui dit, oh là, qu'est-ce que c'est admirable, ce que nous dit Bérabé, là, ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Et pour, moi, je trouve ça un cucu, ce qu'il dit, d'un lamentable, tout. Mais, puis, le Seigneur lui dit, tu dois rester. Ah, oh, bon, tout bien, je dois rester. Oh là là, je veux pas devenir comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont l'air... Ah, mais si les gens fuient l'Église, c'est à cause de ça. Parce qu'ils sont comme ça. Moi, je ne serai jamais comme ça. Je ne veux pas être comme ça. C'est épouvantable, épouvantable. Et puis... il va quand même aux offices. Parce que quand même, il a l'obéissance extérieure. Et il n'est pas encore rentré dans le premier degré d'humilité. Puisqu'il n'est pas dans l'obéissance intérieure de la loi éternelle, la finalité éternelle qui est en lui. Hein. Il a quand même bien entendu la voix extérieure d'une vocation. Et puis, donc, il s'endort. Et le lendemain matin, il se réveille avec un songe. Alors, je vais vous raconter son songe. J'ai trouvé ça très beau. Et du coup, il est resté dans la communauté. Ben, de toute façon, il serait resté quand même. Il serait resté quand même. Parce que c'est un type qui était capable de rester jusqu'au bout. Mais il aurait été capable de rester jusqu'au bout dans l'orgueil spirituel. Et il aurait fait du bien toute sa vie à tous les autres. Il était source de don pour les autres. Et la communauté, il en aurait fait des saints, parce qu'en réalité, il en aurait fait des martyrs. Et c'est vrai. Alors, il a vu sortir de l'office, hein, dans son songe, une procession de moines, des moines de sa communauté. Mais il n'en reconnaissait aucun. Le premier était tout jeune. Il venait de rentrer, c'était un novice. Et il avait des boutons partout. Ça, du pu qui sortait. Le type dont on dit s'il se fait moine, c'est là, aucune chance ailleurs. Et il sortait là, mais alors vraiment, aussitôt qu'il sort, on est pris d'un sentiment de répulsion et il voyait simplement que tous les premiers, au fur et à mesure que les moines sortaient, j'ai du mal à expliquer, je m'excuse, ils étaient de plus en plus âgés, c'est-à-dire ça faisait de plus en plus longtemps qu'ils étaient dans la communauté. Et donc les derniers, au bout de 200 ou 300 qui sortaient, ou 500, je ne sais pas combien, c'était des très anciens, qui avaient 90 ans. Et donc ils étaient passés, à la vie monastique. Et alors, les premiers, et ils voyaient comme sous forme, si vous voulez, d'onde transparente, autour, la curiosité du monde, des gens du monde, pour voir les moines sortir. Donc il ne voyait pas cette foule de gens qui regardaient, mais comme une onde transparente, ces foules-là. Évidemment, dès que le premier sort, whoop, ça faisait partir les ondes, c'est exactement comme lorsque le cortège de Moïse et du peuple d'Israël est passé à travers la mer Rouge et a écarté les eaux. Ouah, loin. C'est la fuite. On n'a pas du tout envie, pas très attirant du tout. Effectivement, ils disent, oh là 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 là, une envie de vomir et tout. C'est pas... Et puis, au fur et à mesure que ça avançait, on voyait donc des attitudes qui sont pour nous remplies d'orgueil, et qui n'avons même pas commencé les premiers pas dans la vie spirituelle, qui nous paraissent des attitudes inutiles. Inutiles. C'est pas la grâce, c'est pas mystique, ça. Enfin, c'est... Alors, Et puis, au fur et à mesure, quand même, donc je vais essayer de raccourcir parce que nous avons du travail à faire. Au fur et à mesure que les vieux approchaient, bon, ça allait mieux. Les ondées transparentes commençaient à ne plus fuir, elles se stabilisaient. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'apercevait que quand ils commençaient à avoir 60 ans, ces vieux, il y avait comme un phénomène de rassemblement à l'intérieur de ces personnes-là qui se faisait. Et, il y avait comme un phénomène très curieux. Effectivement, s'ils regardaient au sol, c'était pas pour forcer, c'était, il y avait quelque chose qui les forçait à être entièrement engloutis en eux-mêmes. Présence de Dieu. N'est-ce pas? Et puis, mais cette force, au bout d'un certain temps, 70 ans, 65 ans, par là, cette force était si grande, si profonde, qu'elle avait plongé dans un océan de lumière à l'intérieur d'eux. Et puis, ceux qui avaient 70 ans, cet océan de lumière était si grand qu'ils étaient transformés en trous noirs, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, il y avait un phénomène extrêmement curieux, c'est que toutes ces ondes transparentes avaient envie d'être englouties à l'intérieur du vieux sage, du vieux moi. Il était tellement humble, il n'existait plus, c'était un trou noir. Et du coup, tout le monde rentrait dans le cœur de Christ à travers ce moine-là. Mais il avait commencé à rentrer dans l'humilité dès l'enfance. Parce que ça vient de Dieu. Et Dieu nous appelle, au fond, spirituellement. Et par la grâce. Pas par la grâce, mais par la grâce. On ne s'impose pas. C'est Dieu qui s'impose. Et je trouve ça très beau, ça. Alors du coup, il a compris que là, pourquoi le bon Dieu l'avait mis là, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse rentrer dans la vie spirituelle et faire que Dieu soit vraiment présent. Pas à la manière dont le monde l'attend, mais à la manière dont l'Esprit Saint travaille. À travers la pauvreté, l'humilité, et à travers précisément le seul moyen à travers lequel le monde peut être sauvé, par cette croix victorieuse de toute réticence à l'amour. L'humilité, elle produit justement le réveil de l'amour dans ceux qui sont séparés de l'amour, et l'orgueil spirituel qui veut donner de l'amour provoque l'exaspération. C'est le critère, si vous voulez un petit critère. Facile. Et puis, quand soi-même on est exaspéré, c'est que, aussi pareil, hein, c'est l'effet du miroir, vous savez bien. Donc ça, c'est l'examen de conscience, j'allais dire, fondamental de l'Église primitive avec saint Benoît. Alors, c'est bien, quand même, de regarder comment l'Église primitive a fini par fleurir dans la spiritualité fondamentale du corps mystique de l'Église, et c'est la spiritualité bénédictine. On ne peut quand même pas s'amuser à dire « j'appartiens à l'Église des derniers temps » si je ne possède pas au moins, comme étant mon patrimoine, cette spiritualité-là. Pas dire « ça, c'est pas ma spiritualité, c'est pas mystique, ça ». Comment ça, c'est pas ma spiritualité? Bien sûr que c'est ma spiritualité. C'est la spiritualité de Jésus. Alors simplement, c'est ce que je vous disais. Je disais, mais avant, on avait tout ça dans ces petits livres, les mutations de Jésus, des trucs comme ça. Et on pouvait, et on utilisait en effet cette vertu, l'humilité, ces petits moyens, etc., pour se rapprocher de Jésus, pour aller vers Jésus, pour pouvoir rencontrer Jésus, pour pouvoir être disponible, pour que Jésus, on puisse en recevoir, qu'au fond, sa présence, sa grâce, c'est bien fait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui a changé, quand même. C'est que nous sommes rentrés, quand même, dans le combat eschatologique final. Hein. Et donc l'esprit du monde est très fort, beaucoup plus fort que nous. Il n'a jamais été aussi fort. Et donc maintenant, tous ces petits actes, on ne peut pas les prendre. C'est trop fort, l'esprit du monde est trop fort. L'orgueil, la passion mère est exaltée à son maximum. Et le péché d'orgueil comme péché, c'est-à-dire la décision, la persuasion, l'évidence qu'il ne faut pas rentrer dans l'humilité par ces petits actes, est universellement acquise. Même pour les chrétiens hyper engagés, hein, parce que les chrétiens hyper engagés, vous regarderez bien autour de vous, vous verrez que c'est comme ça qu'ils agissent, hein, par l'orgueil spirituel. C'est moi qui, c'est ce que je vois qui, c'est extraordinaire ça. Même les, je sais pas, même les prêtres, même moi. Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est obligé de reprendre la spiritualité de Saint-Benoît d'une manière nouvelle. C'est un petit peu ce que j'aurais aimé essayer de faire, sauf que je vous dis, il faut que l'Esprit Saint nous aide quand même à découvrir ça. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il faut retrouver d'abord Jésus, et en Jésus, trouver ses actes. C'est ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ça, quoi. Il faut trouver Jésus. Il faut que ce soit Jésus. Il faut que ce soit le cœur de Jésus. Il faut qu'on soit dans la plaie béante du cœur de Jésus. Et c'est là qu'on trouve tous ces actes. Et cette plaie de Jésus, cette plaie glorieuse de Jésus, il est monté au plus haut des cieux. Sur la montagne de Sion, j'ai situé ma demeure. La montagne de Sion, c'est-à-dire la pauvreté à son sommet. Au plus haut des cieux, dans les plus grandes profondeurs de ma pauvreté intérieure, et c'est pourquoi on a tellement parlé au fond des puits de pauvreté, dans les plus profonds des cieux, c'est pas là-haut, hein, attention, laissez-moi Voltaire s'il vous plaît, hein, aussi, hein, c'est pas là-haut, les profondeurs des cieux. Les profondeurs des cieux, c'est ce qu'il y a de plus profond dans mes plus grandes profondeurs de mes pauvretés intérieures. Le sommet de mes pauvretés intérieures. C'est ça le plus profond des cieux. Parce que c'est là que Jésus est assis à la droite du Père, qu'il est venu rejoindre la présence paternelle créatrice de Dieu au fond de moi. C'est pour ça que c'est uniquement par mes pauvretés que je peux rejoindre la présence de Jésus assis à la droite du Père au fond de moi, dans les plus grandes profondeurs des cieux de mon existence. Parce que la présence de Dieu, elle est là. Totalement. Dans les plus grandes profondeurs des cieux, il y a Jésus qui est là et je viens m'engloutir, je viens prendre par force de conquête Jésus. Et c'est Jésus qui est là et du coup Jésus est tellement caché que du coup moi aussi petit à petit je m'y cache et je suis caché. Et c'est pourquoi il va y avoir tous les fruits de l'humilité. Nous avons vu donc hier les 7 degrés d'humilité qui me font rencontrer les 7 manières si profondément cachées de Jésus d'être divinement, glorieusement, victorieusement, amoureusement humble et pauvre, effacé, effondré dans le sein du Père pour produire l'Esprit Saint. Et du coup, il y a comme un engloutissement de toutes les parties périphériques de ma personne qui viennent elles-mêmes disparaître dans cette pauvreté de Jésus. Et c'est les 5 degrés d'humilité derniers. Et on va disparaître à ses propres yeux, on va disparaître aux yeux de ceux qui sont proches de nous, on va disparaître, on va vraiment disparaître, c'est pas de la blague, on va pas, si on force comme ça, au poignet, en disant, je vais disparaître, vous pouvez pas l'humilité. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'humilité n'est pas en notre pouvoir. Ce qui est dans notre pouvoir, c'est de ne pas rester dans l'orgueil et de rentrer en Jésus. Et pour rentrer en Jésus, je vous l'ai déjà dit, c'est ce qu'il faudrait reprendre tout le temps, il faut accepter ces pauvretés de fait. les aimer. On a des pauvretés de fait, hein? Ou bien on est handicapé physique, ou bien on est handicapé psychologique, ou bien on est handicapé moral, ou bien on est handicapé spirituel. Le plus terrible, c'est d'être handicapé moral. Ça, c'est la souffrance la plus terrible qui soit. Ou bien on est handicapé, ceci, on est tout le temps handicapé, on est handicapé par l'orgueil aussi. Alors, on a des pauvretés de fait. C'est quelque chose de déplaisant. Mais il ne faut pas désespérer, au contraire, il faut dire, ben voilà, j'ai reçu tout. Et j'ai même reçu cette pauvreté. C'est extraordinaire. J'accepte de tout recevoir. Et j'aime d'avoir reçu ça. J'aime d'être reçu tel que je suis. Voilà. Je ne suis pas le bon Dieu. Je suis content que le bon Dieu soit le bon Dieu. Et je suis content que moi, je ne sois pas le bon Dieu. La plus grande humilité, c'est de reconnaître qu'on n'est pas le bon Dieu. Hein? C'est le début, quand même, minimum. Et donc, j'aime mes pauvretés. Parce que quelqu'un qui n'est pas le bon Dieu est forcément pauvre. Il est forcément limité. Par exemple, le fait qu'on soit une créature. Souvent, on parle d'où vient... Donc, on m'a posé la question, d'où vient l'orgueil? Bon, on pourrait dire aussi, d'où vient la souffrance? Hein? D'où vient la souffrance? Souvent, on croit que la souffrance, ça vient du péché. Pas du tout. La souffrance ne vient pas nécessairement du péché. La pauvreté, est-ce que ça vient du péché? Pas du tout. Ça ne vient pas du péché, la pauvreté. La souffrance est un mal. Et la pauvreté est un mal. Pas du tout. Ça, c'est pas vrai. La souffrance, c'est pas forcément un mal. Le fait qu'on soit une créature dans notre univers, il y a toute la création et nous, on est une partie de la création. Hein? C'est Aristote qui dit ça. Le fait qu'on soit une partie d'un tout. Eh bien, le fait, seul fait d'être la partie d'un tout est l'origine de la souffrance. Parce que la partie souffre toujours de n'être qu'une partie d'un tout. Le tout fait toujours souffrir la partie. Toujours comme ça. La souffrance, c'est ça. C'est une partie d'un tout. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette mystique de la bodéité, puisqu'il y a cette nostalgie de ne plus être la partie d'un tout, mais d'être le tout. La mystique bouddhiste, c'est ça. C'est ce désir de s'élargir aux dimensions du tout. Le panthéisme, là, on se répand dans le tout, et on n'est plus la partie, on est le tout, on est Bouddha. Et on vit ça déjà psychologiquement, on est capable... De déployer en astral, comme ça. Tandis que l'humilité, c'est le contraire. On se ramène dans la plus grande pauvreté, la toute... tout petit aspect de rien du tout qui est en nous. Et grâce à nos pauvretés, nous pouvons retrouver cette voie d'accès pour trouver que nous sommes vraiment tout petits, créature de Dieu. Et que Dieu est tout entier à nous dans son acte créateur. Au lieu de dire, j'ai une pauvreté, je souffre, c'est mal. Vous voyez, je refuse, quoi là, ici. C'est le refus, c'est la première révolte mère qui fait que finalement je refuse le don. Et du coup, je désespère. Cette passion, vous voyez, mère de la concupiscence de l'esprit, est très, très subtile. Et pourtant, elle est là. Hein? On ne peut pas ne pas la reconnaître, je veux dire. Donc, ce n'est pas dans notre propre force. Ce qui est dans notre propre force, c'est de retrouver au fond de nous la présence créatrice de Dieu. Et puis, voyons là qu'on ne peut pas y être continuellement. On ne peut faire que des actes d'adoration. On ne peut faire que des actes d'abandon. On ne peut faire que des actes. Vous voyez ? Alors, du coup, à ce moment-là, on voit qu'il n'y a plus qu'une seule possibilité. Bah, c'est de décider que ce soit pour toujours que notre terre, notre lieu, notre volonté, notre désir, notre être, notre offrande soit pour Jésus seul. pour ça qu'on fait oraison d'ailleurs, pour s'entraîner pendant une demi-heure à être dans la plaie du cœur de Jésus, et uniquement là, nulle part ailleurs. On disparaît, il n'y a plus que Jésus. Il n'y a plus que la plaie de Jésus, on s'est effondré, englouti dans cette plaie béante du cœur de Jésus qui brûle dans l'incendie de sa résurrection, dans une pauvreté, un effacement, un effondrement dans le sein du Père total. Ça néantit dans l'amour, l'amour est tel qu'il disparaît complètement, il n'y a plus que le Père, et le Fils lui-même a disparu, ainsi que le Père qui le lui rend bien. Et du coup, il n'y a plus que l'Esprit Saint. Et là, vous voyez, lorsqu'on s'engloutit ici, là, pendant l'oraison, vous voyez, c'est le fameux quatrième secret d'humilité qu'on avait vu. Se mettre dans la grâce, la plénitude de grâce, la plénitude de cette lumière de l'intériorité divine, intérieure même de Dieu, à laquelle on s'engloutit et on la laisse se donner à nous librement. On lui donne du temps pour ça. Au lieu de faire des actes, on va donner du temps. C'est ça, le passage donc, de la vie humaine à l'oraison. Et puis, les sept premiers degrés d'humilité qui vont s'en suivre et qui impliquent donc l'espérance, nous l'avons vu, la foi et l'acte de charité théologale, l'exercice théologal. Nous l'avons vu hier. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je veux bien reprendre. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Parce que c'est mon... Les degrés d'humilité. Voilà. Ah bah, en même temps, c'est pas mauvais, je vous le rappelle. Et comme ça, on reprend, n'est-ce pas ? Bis repetita placent, on dit, il faut répéter plusieurs fois, ça finit par plaire. Au début, l'humilité, ça plaît pas du tout. Oh, ça plaît pas, ça provoque le murmure. Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Et puis regarde. Alors, on trouve n'importe quel prétexte pour fuir. Hein. On veut pas rentrer dans ce que dit l'Église, ce que dit Saint Benoît. On veut surtout pas rentrer. Alors, on s'attache à des fioretti en disant, il a dit comme ça. Et... Si, on s'attache à... Hein? On s'accroche désespérément à ce qui n'a rien à voir avec l'enseignement, tu vois. On s'accroche désespérément pour surtout pas rentrer, c'est ça. On murmure, puis alors, et alors en plus, dans les coins, là, ouais, jamais dans une retraite à la Canourgue, on a vu les retraitants discuter comme ça. Pour fuir, pour murmurer. C'est épouvantable. C'était grossier. Cette espèce de fuite invraisemblable, ce murmure tout le temps. Vite, on revient en rocher sur l'autoroute. Au maximum, on s'accroche. Le refus de recevoir l'humilité. Cette passion mère qui revient. Extraordinaire. On ne veut pas l'humilité. On n'en veut pas. C'est le plus grand malheur qui puisse me tomber sur le crâne, c'est l'humilité. C'est vrai, hein. C'est vrai, écoutez, on est fabriqué comme ça, c'est marrant. Ça. Bon, premier degré. Premier degré d'humilité, la crainte de Dieu, sans cesse présente aux yeux de notre esprit, nous fait pratiquer les commandements. Nous fait éviter le péché. Vous voyez, on rentre dans l'innocence divine. C'est un état d'innocence, on sort du péché. C'est un état primordial d'innocence. On sort des mains de Dieu, donc on n'est plus sous l'influence de l'action créatrice, anticréatrice, si vous préférez. On est sous l'influence de l'action créatrice, amoureuse, initiale et primordiale de Dieu, vitale. Elle nous fait pratiquer les commandements. On est donc dans la crainte des châtiments d'abord, et dans la crainte filiale, la crainte chaste, qui s'achève dans l'adoration. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Deuxième degré, c'est l'obéissance. ou la soumission de notre volonté à celle de Dieu. On va soumettre ses actes de manière que nos actes soient soumis à l'impulsion volontaire du cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui origine nos actes. Donc nos actes vont être remplis dans une toute petite aide. D'abord, ils seront tout petits, et deuxièmement, ils sont d'autant plus petits que du coup, la fulgurance infinie de l'amour de Dieu puisse y être présente. Parce qu'on n'est pas des grands humbles, on est des tout petits humbles. Vous connaissez l'histoire du Père Emmanuel, qui un jour le matin se réveille et il nous raconte cette histoire. C'est un ermite merveilleux, le Père Emmanuel. C'est lui qui m'a formé. Vous allez comprendre tout de suite. Alors il assiste et il dit, j'ai assisté pendant cette nuit à ma canonisation. Ah, c'était un songe vraiment merveilleux. J'étais arrivé au Saint-Pierre de Rome, le pape était là. Un collège de cardinaux, je n'ai jamais vu autant de cardinaux à une canonisation. Et je me disais, mais qui donc est canonisé là? Et je ne sais pas si vous connaissez la basilique Saint-Pierre de Rome, il y a des grandes colonnades, il y a Saint-Vincent de Paul, Sainte-Thérèse de Avila, et tous les grands saints qui font les colonnes de la basilique Saint-Pierre sur les 222 mètres de la nef. Et moi j'assistais à tout. J'étais sur une colonne, sur la colonne qui était à droite. J'étais là. Et je regardais tout, je m'étais mis là, et je regardais, qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a le Saint-Père, avec les cardinaux, proclame. Et j'ai bien écouté, mais qui ça pouvait être? Et surtout, avant de prononcer le nom à la canonisation, Saint-Père a toujours dit, pourquoi est-ce qu'on canonise le Saint? Alors, le Saint-Père a dit « Canonisamus » Je ne sais pas si c'est comme ça, mais enfin. Canonisamus Frater Emmanuelus de Floris.
Oh, mais c'est moi!
Alors, il tend l'oreille encore plus pour savoir le motif de sa canonisation.
Propter maximum humilitatem suam.
Il y a des gens qui ont une toute petite humilité et il y en a d'autres qui ont une très maximum humilité. Mais oui, une humilité maximum. Alors, du coup, c'est ce qu'il disait toujours.
Si vous voulez savoir pourquoi je vois les choses en grand, c'est parce que Saint Benoît et Saint Thomas d'Aquin disent bien que l'humilité se manifeste par la magnanimité. Et la magnanimité consiste à voir les choses en grand.
Mais dans le deuxième degré d'humilité, c'est des petits actes, tout petits, qui du coup sont immenses. C'est ça la magnanimité. Ils sont immenses parce que tout le rayonnement divin passe à travers eux. Tout, n'est-ce pas? Donc, l'obéissance, soumission de notre volonté, ça, c'est la volonté, c'est le langage un peu ancien. Donc, de notre amour, de notre élan d'amour, notre source d'amour, à la source même de l'amour de Dieu. Si nous avons en effet la crainte de Dieu, nous ferons sa volonté. C'est-à-dire, son amour passera à travers le plus petit de nos actes en tout. Cette obéissance à l'amour de Dieu est bien un acte d'humilité puisque c'est l'expression de notre dépendance totale à l'amour actuel de Dieu dans un acte que nous posons et qui est tout petit. Le troisième, c'est l'obéissance donc à l'amour de Dieu qui trouve son impulsion dans le cœur de ceux qui ont autorité sur nous. Dieu s'est caché paternellement à travers papa et maman. Il n'y a rien à faire. J'existerais pas si mon père et la mère n'avaient pas donné mon corps à l'origine. Et le centre de mon corps, ça reste l'unité sponsale de mon père et de ma mère. Ça le reste jusqu'à la mort. Mais quand je refuse d'avoir ma source dans l'amour humain et divin à la fois, alors à ce moment-là, je refuse toute origine d'amour dans un impérium de l'autorité. Et de refuser qu'une source d'amour vienne d'une parole extérieure à moi, c'est le signe que je refuse finalement, concrètement, que l'amour humain et l'amour divin soient vrais. Donc c'est l'obéissance au supérieur, troisième degré d'humilité, obéissance au supérieur, on obéit à son patron, c'est idiot, hein. Tu dis au crédit foncier, tu obéis à ton patron, je veux dire. Tu obéis à, je sais pas moi, au chef de service, du service de cartonnage, je veux dire. Tu obéis à ton... C'est extraordinaire, ça. Eh ben oui, c'est lui qui l'a dit. Là, vous savez, vous êtes sûr. Si vous faites ça avec un amour infini, vous êtes sûr que la passion mère de l'orgueil n'y est plus. Parce que dans tous les autres, où c'est vous qui êtes persuadé que c'est ça qu'il faut faire, vous êtes certain que la passion mère y est à fond. Mais absolument certain. C'est du grand art, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'art chrétien, mais ce n'est pas de l'humilité. Et ça construira rien du tout pour la vie éternelle. Ça construira peut-être quelque chose dans le messianisme temporel. Et justement, la crainte de Dieu, c'est ce que dit toujours le père Marido, par exemple, que la crainte de Dieu, si elle arrache quelque chose avec violence, c'est toute tentation de messianisme temporel. Et quand la mystique nietzschéenne, qui est un athéisme fondamental de la fin du monde, vient s'emparer des chrétiens, ça provoque ce messianisme temporel. Et de vouloir tout faire pour que le royaume de Dieu, ce soit sur cette terre, si vous voulez, le retour du Christ, puis d'un tout, est, le monde est transformé, hein, ici sur la terre, là, le monde transformé, tout, et nous, on va être des instruments pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Tout va se faire sur la terre. Mais pas du tout. On va tous passer par la mort, les mecs. Hein. Tous. Tous. Messianisme temporel, hein, c'est extraordinaire, c'est condamné par l'Église. Hein. Le millénarisme mitigé est condamné par l'Église comme une hérésie formelle. La vision béatifique et toute béatitude se trouve uniquement au-delà de la mort, dans la résurrection de la chair. Et on l'anticipe en vivant de Jésus. C'est justement le quatrième. L'obéissance patiente, même dans les choses les plus difficiles, en supportant les injures, en aimant les ennemis, et surtout quand l'humiliation vient des supérieurs, évidemment. Donc pour y réussir, on pense à la récompense céleste, et on s'engloutit dans les souffrances et les humiliations de Jésus. Vous voyez bien que pour l'amour des ennemis, quand c'est des injures, que c'est des humiliations, d'une injustice invraisemblable, quand je les prends avec une gratitude infinie, ça prouve que j'ai trouvé la grâce de Jésus. Mais tu ne vas pas te forcer en disant « Ah, super, je t'ai humilié !» Humainement, non. Hein? Cinquièmement, l'aveu des fautes secrètes, y compris les pensées, à ceux qui sont proches de nous, en dehors de la confession sacramentelle. Bah, là, la confession, c'est normal, puisque... Vous savez que si vous ne le faites pas, vous êtes dans la réprobation à jamais, quoi. Alors, vous avez intérêt, quoi. C'est votre intérêt. C'est la deuxième passion mère, c'est la concupiscence charnelle. On a peur, hein. Donc, on a peur, pas, voilà. Donc, on avoue toutes ces fautes au confesseur, grûment, à nu, total. Mais quand c'est à... Quelqu'un qui est proche de nous, qui a autorité sur nous, on lui dit ses pensées, t'as pour montrer que vraiment on mérite la réprobation, hein, on ne veut pas, vous voyez, quand on est capable de dire ça, hein, j'ai fait ça, ça c'est l'aveu des fautes secrètes. C'est un acte d'humilité qui est un frein puissant. La pensée qu'il faudra manifester ses fautes les plus secrètes retient souvent sur la pente de l'abîme. C'est sûr que si tu prends comme règle habituelle que dire que tes pensées les plus morbides, les plus invraisemblables, les plus avilissantes, les plus humiliantes, c'est le plus inavouable, tu les diras, quoi qu'il arrive, à celui qui est proche de toi. Je peux te dire que ça les arrête assez vite. C'est vrai, de ce point de vue-là, il y a une fécondité quand même. Pour la première fois, une fécondité, elle commence avec le cinquième degré de l'humilité. L'acceptation, c'est pour ça qu'on fait chapitre d'ailleurs, dans un ménage. On met les choses sur la table, je reconnais que je suis, hein, que tu as parfaitement raison de me mépriser, je le reconnais, puisqu'il y a ça. Tu as plus raison même que tu ne le penses. Le sixième, c'est l'acceptation cordiale de toutes les privations et de toutes les occupations qui nous sont réservées en ce monde, ou dans la famille, ou dans la communauté, voyez, en se regardant comme au-dessous même, et même indigne, de recevoir la charge de ce qu'on nous propose de faire. Ce qu'on disait hier, c'était... je sais plus. Oui, c'est le sens... Hier, on disait c'était le sens de l'incapacité de faire le bien par nous-mêmes. Le septième degré d'humilité consiste à se croire sincèrement, du fond du cœur, à rien du tout. Et à voir que vraiment, on est... Vraiment, rien du tout. Du fond du cœur, le dernier de tous. C'est un degré rare. Les saints y arrivent en se disant que si les autres avaient eu autant de grâce que nous, ils seraient meilleurs. Vous voyez bien, on voit qu'on est vraiment les derniers de tous. Et on y est heureux, vous voyez. C'est de là que jaillit notre grand amour pour Jésus. Parce que, comprenez bien que l'humilité, c'est toujours ça. Hein? C'est, je suis la porte. Quand Jésus dit « Je suis la porte », c'est les 12 degrés d'humilité. Jésus, c'est ça. Il est dernier de tous. Devant Dieu le Père, je tiens à vous dire que sur la croix, il est dans cet état. Qu'il voit qu'il est le dernier de tous, qu'il ne vaut rien. Parce qu'il a les sentiments, ne l'oublions pas, de tous les pécheurs. C'est inouï qu'il ait été jusque-là, vous voyez. Et il se voit, alors, donc, il est vraiment, enfin, à ses propres, il le sait, en toute vérité, il est le dernier de tous. Voilà ce que je vaux, voilà ce que vaut l'humanité, voilà ce que vaut mon humanité, voilà ce que vaut ton Christ, voilà ce que vaut ton envoyé, voilà ce que vaut ton Messie, voilà ce que vaut le Fils de l'homme. Rien! Même Hérode, Pilate, Sanhédrin valent mieux que, à sa propre pensée, que Jésus. Vous voyez ? Pourquoi Matthieu abandonné ? Vous voyez ? Tout est accompli. On ne peut pas aller plus loin dans l'appauvrissement. Alors, je vais quand même vous lire les 5 degrés d'humilité suivants, et puis on va essayer de les commenter la prochaine fois. En fait, ça concerne tout simplement ce fait que, ça y est, à travers cette pauvreté du Christ, dans cette pierre qu'il a choisie, sur cette pierre de l'humilité, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, tu commences à être une pierre de l'humilité. C'est pour ça que Pierre, il a été humilié par le reniement et que Jésus l'a encore humilié dans la résurrection pour en faire la pierre angulaire de toute l'Église. Cette humiliation, tout est basé sur l'humilité. Et c'est le roc à ce moment-là, l'Église peut se construire. Voyez bien, le monde entier peut venir trouver son ordre dans la gloire de Dieu. Et la Jérusalem céleste peut jaillir à ce moment-là dans un messianisme surnaturel et incréé. Et parce que j'accepte d'aller jusqu'à la mort de moi-même, mort du corps, mort de l'esprit, mort de la lumière, mort du rayonnement, mort de la réputation, mort de mon orgueil, mort de mes actes. Et je sais que pour vivre de la résurrection de Jésus au fond de moi, et à ce moment-là, ça attire tous ceux qui sont autour de moi, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et la Jérusalem céleste se crée, se construit à ce moment-là. Et c'est toute l'Église se construit de cette manière-là. La communauté se construit de cette manière-là. Alors à ce moment-là, ça va, du coup, se manifester extérieurement par les 5 degrés d'humilité qui terminent l'échelle de Saint-Benoît. Manifeste extérieurement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le processus spirituel et sacré et glorieux et victorieux de la gloire de la résurrection de la chair de Jésus dans mon corps qui est déjà mort. Parce qu'actuellement, je suis un cadavre. Je suis heureux de le constater. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est que ce cadavre aille jusqu'à la pourriture suprême, jusqu'à sa poussière, jusqu'à la cendre, pour rentrer dans le tombeau, et dans le tombeau vivre donc de ce jaillissement, de cette présence de Jésus. Alors, voilà les 5 degrés d'humilité suivants. Le 8e degré d'humilité consiste dans la fuite de la singularité, de l'originalité. Consiste à ne rien faire d'extraordinaire, à ne rien faire de particulier, de quelque chose qui m'est spécial à moi. Elle fait que on se contente de ce qui est autorisé par la règle de la communauté, par la règle commune, les exemples des anciens, les coutumes légitimes. Vouloir se singulariser est en effet une marque d'orgueil et de vanité. Par exemple, il y a un chant. C'est pour ça que quand vous allez dans les monastères, donc, vous voyez, on dit les chants en latin. Eh bien, les moines, vous serez incapable de reconnaître la voix d'un moine dans le chœur. Ce qui est très difficile. Dans une chorale, c'est pas comme ça. Dans une chorale, on est capable de reconnaître la voix de celui-ci, la voix de celui-là, chacun a sa voix. Et si sa voix n'y était pas, eh bien non. Dans la liturgie monastique, dans la liturgie chrétienne normale, eh bien, on essaie de fondre sa voix dans l'unique voix de la communauté. Et s'il y a une singularité, voyez bien, c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils ont le même habit, le même comportement, les mêmes paroles. Et puis, c'est pas du tout pour être dans un même moule. C'est pas ça, c'est pas la question du moule, parce que ce serait encore de l'art. Mais c'est le fait que du coup on aime tellement Jésus qu'on n'a qu'une seule chose, un seul désir, c'est ce désir de Jésus de faire un seul corps mystique avec tous ses membres. Alors du coup on se fond dans la voix de Jésus, je suis la voix qui crie dans le désert, et Jésus lui dans son silence vient réapparaître dans la voix de la communauté qui chante vers Dieu. Vous comprenez? Et c'est à cause de ça que, du coup, je ne cherche plus du tout à avoir quelconque originalité. Au contraire, il faut que ce soit une seule voix, une seule mélodie, une seule chant, un seul témoignage, un seul corps. Et s'il y a une verrue au milieu, c'est-à-dire moi, ça ne va pas. Le silence. 9e degré d'humilité, savoir se taire et ne jamais parler sauf si on nous le demande. Ne jamais donner son avis sauf si on vient nous le demander. Ne jamais donner une parole sauf si on vient nous la réclamer. Ne jamais donner un conseil sauf si on vient le prendre. Savoir se taire tant qu'on n'est pas interrogé. Et par contre, recevoir les paroles qui viennent de l'autorité ou de ceux qui sont envoyés par l'autorité. Donc, dans une initiative assez... Le fait qu'on prenne assez facilement l'initiative pour faire une remarque, par exemple, ça c'est un signe de... C'est mauvais signe. Très très mauvais signe. Oui, parce que, vous comprenez bien. Vous comprenez bien pourquoi? Parce que si vous avez une singularité, vous voyez bien, si vous n'êtes pas tout à fait dans le huitième degré, ou pas parfaitement, vous êtes encore une verrue sur le nez de la communauté. Parce que vous voulez manifester un petit geste, voilà, quand même, il faut montrer qu'on s'éclate, qu'il y a de la vie chez les cathos, machin. Bon. Hein? Alors, voilà. Bon. Pourtant, vous faites votre possible. Vous pensez que vous êtes... C'est de plus possible. De plus en plus, c'est l'unique voie de Jésus, l'unique voie de l'Immaculé à travers cette communauté qui est là. Et vous y contribuez de votre maximum, je veux dire, parce que c'est la grâce de Dieu qui vous donne ça, vraiment. Mais il y a des petites choses, des petites originalités que vous n'aviez pas vues. Et donc l'autorité va vous envoyer le responsable du chant, le responsable de la cuisine. Il dit, vous avez une manière de dire, m'excuse, de mettre le couvert qui n'est pas très 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 simple. Vous mettez forcément. Vous avez décidé qu'il fallait mettre le verre un petit peu à droite, non? Vous le mettez comme d'habitude. Bon. Dans la communauté, on met des petites pâquerettes, mais pourquoi vous arrivez, quand c'est votre jour de mettre le truc, vous mettez des fleurs, des orchidées, des trucs comme ça, etc. C'est pas très... C'est le responsable qui vous dit non, 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 comme toujours. Vous voyez bien. Et grâce à la communauté, grâce au chapitre, vous voyez bien, grâce, on se fait chapitrer, et grâce à ça... Grâce à ça, je reçois. Et ces paroles, elles sont données parce que le Père Abbé le demande qu'une parole soit donnée pour les frères. Mais sinon, je ne prends, donne pas la parole. C'est pas moi qui vais dire, allez, je vais lui dire un truc, ça va l'aider. Hein? Ça non. Donc savoir se taire tant qu'on n'est pas interrogé. Ça a l'air de rien, mais c'est très fort, ça. C'est très fort. Tu te tais, puis c'est tout. Hein. Mais il faut quand même qu'il comprenne ça. Non, non. C'est sûrement pas toi qui vas lui faire comprendre. Alors là, ça ne craint pas, n'est aucun danger. Tu ne vas pas comprendre du tout. Tu te tais, toi, tu te tais, et tu t'engloutis dans le cœur de Jésus, et tout est fait dans la résurrection de la Jérusalem céleste. C'est la seule chose qui t'intéresse. Et du coup, tu vis ça. Et du coup, quelque part, l'autre te dit, mais dis donc, dis-moi, fais quand même, est-ce que tu penses que c'est bien ce que j'ai fait? Ah ben, tu dis, écoute, voilà, puisque tu me le dis, je vais te dire. Hein. Mais je m'étends pas. Un petit mot, c'est tout. Très court. Et vite, je repars. Je repars dans la Jérusalem céleste, dans l'Immaculée, dans la royauté immaculée de la Vierge, dans la plénitude de grâce. Vous voyez ? Dixième degré, la retenue dans le rire. C'est ce que me disait toujours le Père Emmanuel. Stultus in risu exaltat vocem suam. Parce qu'à chaque fois, au début, j'étais moine, le Père Emmanuel, il racontait quelque chose, et forcément, moi, j'éclatais de rire. Je disais, mais c'est ridicule, c'est l'homme stupide. C'est celui qui est idiot, stupide, bête, qui s'exalte, orgueil, dans le rire. Là, c'est quand l'orgueil devient vraiment stupide. Il en est tellement caricatural qu'il rit. Il ne trouve plus à s'exalter dans des gestes, dans des paroles, alors il rit. C'est extraordinaire, ça. On voit ça, d'ailleurs, dans les noviciats, c'est marrant, parce que dans les noviciats, les jeunes, ils arrivent, vous savez, tout fervent, etc. Ils se coupent d'abord, et puis ils coupent l'imaginaire, ils coupent les paroles, ils coupent tout ça, les actes propres et tout. Et au bout de 6-9 mois, la première fournée arrive, au bout de 6-9 mois, sevrage de l'imaginaire, sevrage des paroles, sevrage de l'auto, hein, sevrage de l'ego, sevrage de tout ça, hein, sevrage de la liberté orgueilleuse et tout. Et donc, il ne reste plus qu'un seul moyen pour s'exalter, c'est le rire. Et alors, en plein office, tous les novices qui hurlent de rire, d'un seul, on pour rien du tout. Pour rien du tout, pour rien. Il suffit qu'il y en ait un qui le... Et... Mais ça, c'est quand l'orgueil en devient bête. Stultus in risu exaltat vocem suam. que l'orgueil ne peut même plus avoir l'apparence de sauver les apparences. Alors on rit. Alors on rit. Vous ne verrez jamais un moine rire. Pourquoi vous riez? Ah mon Dieu, mais pourquoi vous riez? Jamais vous ferez un moine rire, et toujours souriant. C'est pas... Bon. Alors, on ne condamne pas la joie intérieure, la joie spirituelle, le fait qu'on soit extrêmement joyeux, ça non. Mais c'est donc le rire de mauvais aloi, vous voyez, ce rire hystérique, ce rire qui s'exalte, qui se fait entendre en tout cas. Vous voyez ? Mais si vous regardez bien la joie, la vraie joie, elle est une joie, quand vraiment on a une joie, elle est forcément, elle n'est pas bruyante. On peut rire, si vous voulez, quelque chose, mais c'est pas bruyant, c'est plus un sourire qu'un rire, quand on éclate de joie. C'est sûr. Le rire railleur, le rire sarcastique, le rire de mauvais aloi, la disposition habituelle à rire promptement, le rire bruyant, montre le peu de respect pour la présence de Dieu et l'absence totale d'humilité. Donc, 11e degré, la réserve dans les paroles. Alors là, non seulement, si vous voulez, on ne va pas parler, sauf si on nous le demande, mais là, c'est quelque chose de plus. C'est lorsqu'on parle, ce sera imbibé de la présence toute pauvre, toute humble de Jésus. C'est vraiment la voix de la pauvreté ruisselante, joyeuse, fraîche, pauvre, petite, enfantine, si vous voulez, de la grâce chrétienne qui va s'exprimer. Hein? On pense tout de suite à Marthe. Marthe Robin, c'était très frappant, ça. Alors, c'est sans éclat, vous voyez, on parle de manière fraîche, humble, rafraîchissante, précise, ne s'étendant pas, féconde, petite, enfantine, je veux dire, c'est extraordinaire, douce, sans éclat de voix, grave, sobre, sage, savoureuse, rafraîchissante, étonnante, admirable. C'est la parole d'un tout petit. C'est la parole qui sort de ce qu'il y a de plus petit en moi. C'est Jésus. Ce qu'il y a de plus petit en moi, c'est Jésus. Celui qui se fait le plus petit en moi, c'est l'amour de Dieu. Et c'est de là que jaillit la parole. Et la 12e degré, le dernier degré d'humilité, c'est quand, cette fois-ci, non seulement l'écho même de la pauvreté de Jésus passe à travers ma voix et ma parole, mais également le corps, mon corps lui-même, mon propre corps, ma propre chair, vit cette pauvreté, de cette humilité, de cette source si étonnante de l'amour de Jésus qui s'effondre pour s'effacer, pour qu'il n'y ait plus que l'amour du Saint-Esprit. Et alors, voyez, à ce moment-là, toutes les attitudes du corps sont, par la puissance, si je puis dire, de l'union transformante, parce que mon corps s'est totalement spiritualisé. Quand mon corps spirituel s'est mis en harmonie avec mon corps terrestre, c'est ce qui se passe. Il y a l'immunisation totale par rapport à l'orgueil, la désagrégation du mal, et donc l'attraction de tout ce qui est bien autour de nous qui se fait. Et du coup, il y a la modestie dans le maintien, dans la manière de marcher, dans la manière d'avancer, dans la manière de s'asseoir, dans la manière de se tenir debout, dans la manière de regarder, on regarde de manière modeste, on avance pauvrement, modestement, si vous voulez, on avance. Vous voyez, c'est ces vieux qui sortaient de l'église. C'était extraordinaire de voir comme ils avançaient avec une pauvreté, mais là, c'était extraordinaire parce qu'il y avait une attraction de lumière, d'une intensité tout à fait invraisemblable. Sans affectation, la tête légèrement inclinée, pas comme ça, sur le côté, n'est-ce pas? Mais, la tête légèrement inclinée, en pensant à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui occupe, qui absorbe toutes nos pensées, en se disant qu'on est indigne de lever même les yeux vers celui qui est proche de nous, tellement il est plus grand que nous, ou même vers Dieu, puisque Dieu est plus grand que nous, et on est même indigne, alors on baisse les yeux, et il n'y a plus que la pauvreté de Jésus qui émane de nous. Du fond de nos entrailles, et du plus haut des cieux, c'est-à-dire du plus grande profondeur des cieux, de notre pauvreté intérieure. Alors on se dit qu'on est indigne de lever vers les cieux. C'est ce que faisait le publicain de la parabole de Jésus. Il se frappait la poitrine, il regardait par terre, j'étais là, il dit, je ne suis même pas digne de rentrer dans ta maison, je ne sais pas, je suis pécheur. Tandis que l'autre était dans l'église, il était bien debout, il disait ça, j'ai ma place ici. Je suis en terrain conquis dans l'église. Voilà. Et on va faire du bien. Voilà. Eh bien, nous allons essayer de regarder justement tout à l'heure, du moins cet après-midi, un petit peu rapidement, hein, on va essayer de récapituler tout ça. Pour voir comment tous ces 12 degrés d'humilité s'harmonisent pour construire le cœur immaculé de Marie, la victoire, j'allais dire, de la pauvreté du oui de Marie dans le oui de Jésus, et qui ont choisi un lieu. C'est la pauvreté de ceux qui veulent bien avoir la foi, l'espérance, la charité, et de vivre de l'oraison dans les dons du Saint-Esprit. C'est ce lieu qu'ils ont choisi pour réaliser leur unité glorieuse. Alors ce oui extraordinaire va se manifester dans les 12 degrés d'humilité, va construire la nouvelle famille. Une famille qui n'est pas de cette terre et qu'on ne verra que dans la vision béatifique corporellement. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'à ce 12e degré d'humilité où le corps lui-même est dans une attitude pauvre, humble, habituellement pauvre et humble, modeste.